le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Thomas Renaud, qui est directeur artistique des rencontres de jonglage, et Johan Swartwager, qui lui est jongleur, metteur en scène et tellement plus de choses. Mais ça, nous avons une demi-heure pour découvrir ce monde fabuleux et très exigeant, très rigoureux et pourtant très léger et aérien, le jonglage. Carmela et Negrito, son ami le grillon, sont rentrés dans notre petit village de Haute-Ariège vendredi. Alors les amis, on abandonne le Tour de France des meetings ? Pas du tout, me répliqua sèchement le grillon. Nous sommes juste venus chercher quelques livres pour intensifier l'autre campagne, la nôtre, celle des gens qui ne croient plus en ce système. Negrito, visiblement impatient, demanda à Carmela de me montrer leur dernière arme. Tu connais les chiens de garde ? Bah oui, les nouveaux chiens de garde, Serge Halimi. Mais non ! Tu vois, Carmela, reprit le grillon, je te le disais bien qu'elle ne connaissait pas le livre de Paul Nizan. Un point pour vous. Peut-on savoir en quoi ce texte va vous aider dans votre autre campagne ? Facile, ricana Negrito, en se posant sur le bout de mon nez, ce qui m'agace toujours autant. Écoute ce que ce philosophe a écrit en 1932 et tu comprendras enfin. Carmela ouvrit le livre. Tu vas entendre des textes qui, aujourd'hui, auraient valu à Paul Nizan au minimum un procès. Vu que pour un concert de casseroles, nous sommes verbalisés. Écoute bien. Et elle cite Nizan. Les penseurs, les politiques, les professeurs d'économie, les diplomates, les banquiers et ceux que les flatteurs nomment capitaines d'industrie s'assemblent et découvrent que ça ne va pas dans le monde comme l'exige le profit. Cette anarchie visible est une inquiétude pour leur avenir et un scandale au regard de leur raison. Drôlement actuel, votre Paul Nizan, mais il n'y a pas de quoi mettre un philosophe en prison quand même dans ce que tu viens de lire. Attends, écoute la suite. Sans doute nous sentons bien que notre colère et que notre impatience et que la vision de notre avenir ne se traduisent en mots et ne se déguisent sous des feuilles d'impression que faute de mieux. Sans doute nous serait-il plus précieux d'abattre que de réfuter, de nous battre que de persuader, de combattre que de gagner des combattants futurs. Nous connaîtrions une joie plus vaste et plus virile de nous asseoir dans nos maisons un soir de victoire que d'avoir travaillé la matière du langage. Ah oui, quand même, oui. Si j'ai bien compris, Nizan appelle à l'insurrection, quoi. Enfin, tu comprends, souffla Negrito avant de poursuivre la lecture en piquant le livre à Carmela. Aucune dénonciation n'est inutile, tout est à dénoncer. Ayons cette patience des tâches humiliantes. Elles mériteront un juste oubli le jour où sera pris le pouvoir pour lequel se déroule la lutte. Voici ce que dit le révolutionnaire. Nous travaillons à la machine à écrire, mais nous devons savoir que demain cette machine peut se changer en mitrailleuse. Aujourd'hui, nous sommes les soldats de la plume. Demain ou après-demain, nous combattrons avec le fusil. Mais nous ne devons pas oublier qu'avant ce fusil, nous ne servirons bien la révolution que si dès aujourd'hui, nous mettons franchement et catégoriquement au service du front révolutionnaire notre arme présente, la plume. Ah ben dis donc, c'est sûr que c'est radical, mais ce ne sont que des mots tout de même. Oui, peut-être, répliqua Carmela, mais Paul Nizan est mort au combat le 23 mai 1940 lors de l'offensive allemande contre Dunkerque. Thomas Renaud, Johan Swartwager, je ne sais pas si on a jonglé avec des armes. On jongle avec tout aujourd'hui. Avant, il y avait 2-3 modèles de balles ou de quilles pour jongler. Aujourd'hui, on voit les jongleurs s'emparer de beaucoup d'éléments, soit de la vie quotidienne, des choses très surprenantes parfois. Johan Swartwager.
Maintenant, on manipule tout. Mais finalement, quand même, les principaux objets qui restent sont quand même les objets traditionnels de jonglage, les balles, les massues, Les anneaux.
Ah oui, les quilles, c'était des massues, pardon, excusez-moi, les massues, oui.
Après, en effet, tout est manipulé. Pour moi, la différence entre la manipulation de tous les objets différents qu'on peut rencontrer et le jonglage, c'est vraiment le temps passé avec cet objet. Et donc, j'ai encore peu vu, finalement, d'objets non traditionnels qui étaient vraiment jonglés. Parce que souvent, il manque le temps de cette pratique. Et le jour où il y aura des enfants qui vont commencer à jongler, à manipuler, à s'amuser avec des objets du quotidien, ben, 15 ans après, ils seront vraiment jongleurs de cet objet.
Alors, si on en reste sur les balles et les massues et les anneaux, il y a quand même des balles de différentes grandeurs. Enfin, moi, j'ai vu quand même, Pascal Thomas, par exemple, nous a habitués à renouveler un petit peu les objets qu'il jongle. Thomas Renaud.
Oui, Jérôme Thomas qui était un des personnages majeurs et qui est toujours un auteur de jonglage important, qui a développé le jonglage cubique. Il a effectivement ouvert avec d'autres objets. Je pense aussi à Maxime Comaro, qui a jonglé avec des tronçonneuses, puisqu'on parlait d'armes et de révolution. En début
la révolution
d'édition.
À la tronçonneuse, on ne l'a pas fait encore, mais bon, le jonglage, oui, visiblement. Mais des vrais, c'est horriblement lourd, une tronçonneuse.
C'est horriblement lourd. Après, les Finlandais qui ont apporté leur pierre à l'édifice du jonglage
ça
contemporain
m'étonne pas d'eux.
Ont parfois des idées saugrenues et qui mènent à bout.
Alors, au-delà des objets que l'on jongle, comme vous dites, il y a aussi, qui a renouvelé pour moi le jonglage, en tout cas l'a ouvert à beaucoup de perspectives, c'est les différentes parties du corps avec lesquelles on jongle. Parce que traditionnellement, c'était avec les mains, et puis les pieds sont arrivés, puis les épaules, puis les avant-bras, puis la tête, puis le cou, puis le dos. Certains jonglent avec tout le corps, et ça, c'est assez étonnant aussi, Thomas Renaud.
Je suis assez d'accord au sens où il y a un vrai engagement physique et où tout le corps est engagé dans le jonglage. Et le jonglage
avec la bouche aussi.
Avec la bouche, les balles de ping-pong. Ouais, voilà. Et du coup, c'est un engagement total du jongleur. Après, l'antipodisme, qui est donc le jonglage avec les pieds, pour le coup, c'est une discipline du jonglage traditionnel.
Alors, vous parlez de tradition et vous, Johann Schwarzwager, vous êtes jongleur et on se dit, il a dû aller dans une école du cirque. Parce que pour avoir fréquenté quelques écoles du cirque, j'avais remarqué que les tout petits, enfin, même à 6, 7, 8 ans, vraiment l'agré le plus difficile, c'est le jonglage. C'est-à-dire, ils arrivent à marcher tant bien que mal sur un fil, à faire un peu de trapèze, mais dès qu'on leur donne, j'en ris parce que j'ai des images, on leur donne des anneaux ou des, pour passer une balle à travers, la coordination des mouvements n'est pas encore acquise et c'est une chose qui est très difficile pour eux et un peu douloureuse pour les parents qui voient leurs enfants tenter de jongler.
Ouais, en fait, c'est super long l'apprentissage du jonglage. Et du coup, c'est vrai que ça. Les gens qui deviennent jongleurs, moi, dans l'expérience que j'en ai, en tout cas, des rencontres que j'ai pu faire, c'est toujours des gens qui, à un moment, ont mordu vraiment à la pratique. Et du coup, c'est pas une pratique, selon moi, qui peut s'apprendre juste dans le cadre de cours. C'est qu'à un moment, on peut mordre dans un cours de jonglage. Mais après, c'est ce qui va faire la donne. C'est vraiment le moment où on va jongler 7 heures par jour.
Ah oui, c'est quand même ça, 7 heures par jour.
Ouais, enfin, plein d'heures par jour, beaucoup, quoi. On va être vraiment drogué au jonglage pendant quelques années. C'est ça qui, pour moi, fait qu'on devient jongleur. Il faut qu'il y ait, j'ai la sensation qu'il faut qu'il y ait ce déclic-là de jongler, un peu tout le temps et partout.
Alors pourquoi, par rapport à d'autres disciplines, ça demande autant d'heures? Parce qu'il faut que ça s'imprime dans le cerveau? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qui se modifie presque dans le cerveau?
Ouais, c'est très long. Entre le moment où souvent on dit qu'on trouve une figure, donc on invente une figure, et le moment où vraiment elle est intégrée au corps et qu'on peut la partager sur scène ou la partager à ses amis en la faisant, quoi.
Ou dans la rue, on voit beaucoup de jongleurs s'entraîner dans la rue.
Bah, entre le moment où on trouve cette figure et le moment où on peut faire ça, il y a souvent voilà, plusieurs mois qui se sont écoulés, au moins des fois plusieurs années. Et puis il y a aussi une autre particularité par rapport aux autres disciplines de cirque avec le jonglage, c'est que physiquement, c'est possible de travailler 9 heures par jour comparé oui. au trapèze ou en fait au bout ou l'acrobatie en fait au bout de quelques heures c'est très compliqué de continuer. Et c'est aussi pour ça que puisque c'est possible, le niveau est élevé parce qu'on jongle longtemps. Et donc ça fait partie du jeu, quoi.
Et vieux, finalement, c'est une des disciplines où vous pouvez, comme Monsieur Loyal, quoi, dans le cirque, vous pouvez aller jusqu'à très tard dans l'âge, non?
Oui, pour effectivement, il y a des jongleurs plus âgés que des trapézistes. Après, il y a quand même une usure du corps. Il y a des tendinites. Après des heures et des heures et des années de pratique, il y a quand même des jongleurs qui s'usent. Et pour compléter sur l'impact que ça pouvait avoir sur le corps, effectivement, Frédéric Polleret qui a publié Les sciences du jonglage.
C'est joli parce que c'est un langage aussi.
Du langage jonglé. Les sciences du jonglage, il y a 2 ans, qui avait travaillé au CNRS, avait effectivement mis en avant un développement dans une partie du cerveau spécifique aux jongleurs. Mais après, à l'inverse, c'est plutôt la discipline, parmi les disciplines de cirque, la plus accessible. Alors effectivement, vous disiez les enfants peuvent peiner. Pour autant, dans la pratique amateur, c'est la pratique la plus courue, tout simplement. Enfin, entre autres,
parce qu'il suffit d'avoir quelques balles.
Voilà, il suffit d'avoir quelques objets pour pouvoir apprendre les rudiments.
Alors, vous n'êtes pas passé par une école, m'a-t-on dit, Johann Schwarzwager. Vous avez carrément, et là, vous devriez plaire à Carmela et Negrito, hein, qui sont pour, vous l'avez compris, l'autonomie. Vous avez créé votre propre formation autogérée des arts du cirque.
Ouais, en fait,
c'est assez original, quoi. Vous voulez apprendre quelque chose, bah vous créez votre propre formation et vous êtes un apprenant sachant.
Ouais, en fait, j'habitais en milieu rural et j'avais pas spécialement envie de déménager.
On vous comprend.
J'avais envie de continuer mes projets artistiques, socioculturels dans la région où j'habitais. Et j'étais un petit peu révolutionnaire aussi, j'avais 20 ans.
Ah, j'espère que vous l'êtes toujours, hein, parce que moi je le suis toujours.
J'essaye.
J'ai plus 20 ans.
Et du coup, ça m'intéressait beaucoup de questionner quand même le fond, la forme de l'idée de formation. Et donc j'ai monté via une subvention européenne un projet de formation de 8 stages de 10 jours dans l'hiver, qui était développé dans quelques villages autour de chez moi. Et donc j'ai invité d'autres stagiaires et j'ai invité les professeurs avec lesquels je voulais travailler. Ça a duré 2 ans, on a fait une première année cirque très ouverte, une deuxième année avec que du jonglage contemporain. Donc on a invité tous les personnages, tous nos pères spirituels, on les a invités pour être nos professeurs et nous former de cette manière.
Renaud, vous êtes le directeur artistique des rencontres de jonglage et vous êtes le directeur de la maison du jonglage, c'est ça, à La Courneuve, qui a été créée par 2 jongleurs d'ailleurs. Le jonglage, finalement, je dis finalement parce qu'on ne l'imagine pas comme la discipline la plus hiérarchiquement. S'il y avait une hiérarchie dans les disciplines, on imagine toujours le trapèze volant, puis le trapèze, puis le fil, enfin toutes ces choses qui sont une prise de risque finalement pour le corps. Le clown avec toute sa longue histoire et ses bifurcations sur le théâtre et sur d'autres arts, et le cinéma, etc. Mais le jonglage, c'était un peu comme entre deux grands numéros. En tout cas, c'est un peu l'idée qu'on pouvait en avoir. Or là, tout ce que vous me dites depuis le début de l'émission, et le fait qu'il y ait cette maison, montre que c'est une discipline passionnante, ancrée dans l'histoire du cirque et au-delà, peut-être.
Oui, moi j'ai toujours considéré que c'était une discipline importante. Après, dans le jonglage contemporain, il y a aussi des œuvres qui ne sont pas pluridisciplinaires. D'ailleurs, la plupart des œuvres créées aujourd'hui sont souvent monodisciplinaires.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas dans un spectacle de cirque, c'est quelqu'un, un jongleur, qui fait son spectacle.
C'est ça. Après, nous, on accueille à la Maison des Jonglages un panorama large de la création jonglée. Donc, on a aussi bien des œuvres monodisciplinaires où il n'y a que du jonglage et d'autres œuvres qui vont être plus transdisciplinaires. Après, j'ai le sentiment que le jonglage est plus radical que d'autres disciplines de cirque.
En quoi est-il plus radical?
Il est. Ben déjà, il a son histoire à part entière. Hein, certains.
Qui remonte.
On a retrouvé dans les tombeaux égyptiens des gravures de jongleurs. Évidemment, la figure du saltimbanque au Moyen-Âge. Voilà, il a vraiment une histoire indépendante du cirque. Donc, certains jongleurs ne se retrouvent pas dans le cirque. Donc, cette histoire, le fait qu'il ait une pratique très développée, comme je le disais tout à l'heure, qu'il a aussi un monde, une sociologie, on va dire, des jongleurs, puisque il y a des conventions de jonglage, dont certaines européennes, qui rassemblent plusieurs milliers de jongleurs. Et du coup, cette pratique qui a cette histoire et toute cette richesse et cette diversité peut se permettre une forme de radicalité qu'on essaye, nous, de défendre à la Maison des Jongleurs.
Johann Schwarzwager, vous êtes, vous, jongleur, parce que vous, Thomas Renaud, vous dirigez, mais vous n'êtes pas jongleur vous-même, non? C'est pas nécessaire pour jongler avec les budgets et tout le reste.
C'est, bon, ouais, c'est le mauvais jeu de mots. Avec les 10 partenaires aussi.
Alors, vous êtes installé à la Courneuve, c'est pas pour rien. Et vous, d'ailleurs, Johann Schwarzwager, vous êtes artiste associé. Donc, comme vous nous avez expliqué votre ancrage rural important pour vous, là, vous pratiquez aussi un ancrage, mais urbain. Et ça semble être important pour vous de résider, de travailler. D'ailleurs, vos spectacles, parce qu'il faut parler des 10 ans des rencontres des jonglages à la Courneuve quand même, vous êtes là pour ça, mais c'est pas qu'à la Courneuve, c'est sur tout un territoire, et précisément, vous avez un projet sur 2 ans, la Grande Parade, en quelques mots, c'est quoi?
Ouais, le projet sur 2 ans est au quartier des 4 Routes à la Courneuve, ça s'appelle Monument en Partage. L'idée, c'est d'habiter ce quartier, alors de manière alternative, et de découvrir, de donner à voir ce quartier via notre pratique du jonglage.
Ça donne quoi concrètement, un exemple?
Un exemple, c'est un projet photo avec des masques, avec des habitants, et puis toute cette semaine, en ce moment même, au 4 août, on fait des performances d'affichage, on fait de l'affichage performatif, donc on met en scène l'idée d'aller afficher ces affiches dans la rue, mais il y a aussi un jongleur, il y a aussi un DJ, il y a aussi une esthétique de costard noir avec un pick-up noir. Et donc, on met en scène, notre envie, c'est de mettre en scène des actes qui sont co-construits avec les habitants. Donc, à chaque fois, le spectacle, c'est l'ensemble de ce qu'on fait sur ce quartier. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on fait cette semaine, mais au mois de juin, on va faire des visites détournées jonglées pour les enfants, on va les emmener dans le quartier, voir le quartier
autrement,
avec le jonglage, grâce au jonglage. C'est vraiment le travail qu'on développe avec le collectif Protocole. C'est d'appréhender un paysage, d'appréhender n'importe quel espace avec le jonglage. Mmh. Et de donner à voir cette richesse-là.
Alors, à côté de ça, dans le 13e à Paris, puis à la Courneuve, 21 et 22 dans le 13e et le 28 avril à la Courneuve, vous donnez un de vos spectacles qui s'appelle Monument. Là encore, on y entend peut-être la ville.
Ouais, on y entend la ville, on y entend aussi l'idée de monumental, c'est-à-dire qu'on avait envie de créer un spectacle qui soit grand pour nous créer un chef-d'œuvre, autoproclamé qu'on crée un chef-d'œuvre au sein du collectif. Et donc le spectacle dure 4 jours, il commence à J1 matin et il se termine à J4 soir.
C'est-à-dire que même la nuit ?
C'est-à-dire que pendant 4 jours, on fait des interventions dans le quartier. Donc les 3 premiers jours, on récolte du vivant et de l'architectural. C'est-à-dire on fait découvrir la ville de cette manière, on rencontre des habitants. Et le 4e jour, on fait le compte-rendu de notre investigation jonglée.
Tout ça en jonglant.
Et donc tout ça, c'est via le jonglage, ouais.
J'ai du mal à l'imaginer, pardon. Hein. Mais je vois le projet, mais qu'est-ce que ça donne en matière de jonglage, un quartier? Vous jonglez avec quoi?
Alors on jongle toujours avec des massues. Et c'est le fait de venir dans différents espaces qui détournent le regard des gens. Si on jongle en l'air, les gens lèvent les yeux et tout d'un coup, ils voient le petit balcon qu'ils n'avaient pas vu. Si on jongle dans le tas de gravier qui est posé à côté de la route, tout d'un coup, le tas de gravier est rendu visible. C'est vraiment la direction qu'on a pris avec Monument.
Et vous ferez cela dans le 13e aussi. Ouais.
C'est aussi un monument humain.
Vous serez combien de jongleurs pour faire ça?
On est 5 jongleurs.
5 jongleurs. Ouais. Alors, il va falloir se déplacer, vous suivre. Hein. Thomas Renaud, j'imagine que pour fêter les 10 ans des rencontres de jonglage à la Courneuve, il y a beaucoup d'autres spectacles. Alors, en tant que directeur artistique, vous voudriez parler de quoi? Déjà, un spectacle qui nous vaut un absent hein, que nous avions invité, c'est Sébastien Renaud. Il n'est pas là parce qu'il fait une performance.
Exactement, la Alors, performance a démarré le 1er avril et du coup pendant 30 jours en continu, donc jour et nuit,
ils dorment.
Ils peuvent dormir, hein. il n'y a pas d'interdiction de dormir. Par contre, ils sont toujours à vue dans l'espace public.
Ils dorment
public.
Dans la rue.
Ils dorment dans la rue, tout à fait. Ils ont donc un outil qui est simple, ce sont des meubles, des tables, des chaises, des lits. Qui alors sur ce projet qu'ils construisent avec les habitants, puis qu'ils déplacent, donc c'est des traversées monumentales en l'occurrence là de la Seine-Saint-Denis. Ils partent de Saint-Ouen pour arriver à la Courneuve en traversant Saint-Denis et Aubervilliers, toujours à la vue de tous et avec une vraie disponibilité. Donc les habitants, les passants sont surpris par ce dispositif, ces meubles qui sont beaux en eux-mêmes et qui attirent le regard.
La couette avec quelqu'un dedans qui va après jongler.
C'est ça, ils invitent du coup les passants à prendre un café. Ils ont toujours un but à gaz et une cafetière pour qui servira de prétexte à une première rencontre. Puis certains vont se prendre au jeu et participer à une construction. D'autres vont rester la journée complète, apporter un repas le lendemain ou même partager une nuit avec eux. Et donc, c'est une performance assez inédite puisque ça fait 720 heures de performance en continu.
Ça s'appelle « Tout doit disparaître ».
Tout doit disparaître parce que donc on construit donc les meubles avec les habitants puis on les déplace avec aussi l'aide des voisins puisqu'ils deviennent vraiment les voisins du 9-3. Et à la fin, on offre tous les meubles, donc les 300 meubles qui ont été construits avec l'aide de tout le monde, on les offre en clôture du festival Place de la Fraternité au cœur de la cité des 4000
c'est
à la Courneuve.
C'est magnifique. C'est dommage que vous ne soyez pas passé vers Stalingrad, Jaurès ou Porte de la Chapelle avec tous les réfugiés qui dorment dehors aussi et qui boivent des cafés le jeudi soir par exemple.
Alors on a un groupe de migrants de Stalingrad justement qui sera sur le festival à la Courneuve. Oui. En l'occurrence, justement, on les a rencontrés Boisjo Renaud, ce jongleur. Ce duo duo à l'occasion d'un projet qui menait sur le Grand Paris. Donc, ils partaient des 30 portes de Paris et ils convergeaient vers le centre. Et donc, ils sont aussi passés par... par Stalingrad, et c'est en passant deux jours et deux nuits avec eux au mois de mai qu'on, ça nous a paru une évidence qu'il fallait manipuler des meubles à l'espace d'un territoire comme la Seine-Saint-Denis.
Alors, peut-être, on a peu de temps, encore un projet, tout le programme, évidemment, on le retrouvera sur le site. J'imagine que vous avez un site des rencontres de jonglage, le 10e festival qui se déroule du 8 au 30 avril à La Courneuve. Un projet que vous voudriez nous raconter, vous racontez si bien, je vous écouterai des heures, moi.
Alors, on a parlé de monuments en partage et de protocoles. Johan est aussi metteur en scène de All the Fun, qui sera accueilli au Carreau du Temple les 15 et 16 avril, où on fait aussi une convention décalée de jonglage. Donc la maison des jonglages a été créée justement parce qu'il n'y avait pas la place pour le jonglage de création, ni dans les conventions de jonglage, ni tout à fait sa place dans des festivals de cirque. Donc là, on organise pour les 10 ans une convention décalée au Carreau du Temple. Et j'aurais aimé parler de Héros Fracas, puisqu'il va être un peu aussi un autre fil rouge du festival. Il sera donc présenté le 14 avril dans les jardins de l'hôtel de Sully.
C'est où ces jardins ?
On entrera par la place des Vosges, une petite entrée secrète.
Ah oui, c'est à Paris, on n'est plus à la
De certains là. Parisiens. Le festival est sur un mois à l'échelle de la région Île-de-France.
D'accord.
Et après, le festival final, on va dire le cœur de festival, est à La Courneuve, puisque c'est là qu'il a été créé il y a 10 ans.
Revenons au jardin de Sully, ici.
Et donc, dans ces jardins de l'hôtel de Sully, on retrouvera la compagnie Le Jardin des Délices, Nathan Israël et Luna Rousseau, avec la nouvelle création Héros Fracas, qui vont donc prendre un peu toutes les figures du héros, les triturer dans tous les sens jusqu'à réduire la figure du héros à de la chair fraîche.
Très bien. Alors, merci. On a envie de vous suivre dans ce festival errant en région parisienne qui s'installe parfois dans les rues et les places, jour et nuit, mon Dieu. Juste une question. En une minute, est-ce que vous êtes capable, Johann Schwarzwager, de me dire comment on crée encore des nouvelles figures ? Comment ça arrive, ça ? Par hasard, ou on les dessine sur le papier, ou c'est par le corps en improvisant, en s'entraînant ?
C'est beaucoup par hasard pour ma part, je vais pas répondre pour tout le monde. C'est beaucoup par hasard. Tout d'un coup, il y a une petite chose qui se passe, un petit raté, et à partir de ce petit raté, finalement, en le travaillant, on peut le transformer, le modifier, et puis que ça devienne une figure de jonglage.
Ah, c'est une belle philosophie de la vie, qu'à partir des ratés, on crée une belle figure et nouvelle de jonglage. Merci à tous les deux d'être venus. Il y a beaucoup de filles qui jonglent. J'ai beaucoup vu de garçons.
Assez peu.
Comment ça se fait?
Donc on a encore,
pas du tout.
Même si on s'est retrouvés dans Carmela et Negrito, on a encore du travail pour transformer la société avec le jonglage.
Pour les 10 ans prochains de la maison de jonglage de La Courneuve. Un travail c'est avec ça. Les filles. Merci les garçons d'être passés dans cette émission. On peut retrouver toutes les références de cette émission sur notre site franceculture.fr et tout votre programme évidemment. Le Temps Buissonnier, c'est toute une équipe aussi. Aline Paillet, Franck Lilin à la réalisation, Annie Comier qui jonglait sur plein de postes. Et à la technique, Cédric Châtelus. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de France Culture. Et ça commence là tout de suite avec le premier journal. À la semaine prochaine.